Bonjour, répondant à l'invitation d'Ensemble 44, Pierre Calfa, économiste, membre du conseil scientifique d'Attac, membre de la fondation Copernic, est venu présenter à Nantes cette Europe malade du néolibéralisme, l'urgence de désobéir, ouvrage qu'il a coordonné, paru aux éditions des Liens qui libèrent.
On s'indigne plus, on désobéit.
Face à l'Union européenne qui est devenue aujourd'hui un carcan pour les peuples, il faut essayer de construire une stratégie qui permette de desserrer l'étau. En fait, face à cela, on a trois leviers, mais qui sont des leviers chacun avec ses propres fragilités. Le premier levier, c'est le levier institutionnel européen. Il va y avoir des élections au Parlement européen. Il y a un enjeu à ces élections. Le Parlement européen, contrairement à ce qu'on peut entendre des fois, n'est pas du tout un Parlement croupion. C'est un Parlement qui a un certain pouvoir, qui peut bloquer des directives, qui peut démettre la Commission. Donc il a un poids. Et il tient assez facilement la comparaison avec le Parlement français, par exemple, en termes de pouvoir. Mais il n'a pas le pouvoir de modifier les traités. Qui sont rédigés et par les gouvernements, ratifiés par les États, soit par, en général par les parlements d'ailleurs, et pas par les référendums. Bon. Ce qui est au cœur de la construction européenne, qui sont les traités, ne peuvent pas être modifiés par le Parlement. Le deuxième levier dont nous disposons, c'est le levier des mobilisations sociales ou citoyennes à l'échelle européenne. Mais celles-ci sont difficiles à construire. Elles sont pour le moment d'une faible ampleur. Le mouvement social européen ne s'est pas encore remis de la disparition du Forum social européen en 2010, qui avait été un moment de construction importante, d'agglomération des forces à l'échelle européenne, et qui a échoué pour des raisons complexes, mais entre autres parce qu'il n'avait pas réussi à élaborer une stratégie justement à l'échelle européenne. Et le troisième niveau, qui renvoie à votre question sur la désobéissance, qui est la rupture au niveau national. C'est-à-dire l'idée qu'un gouvernement progressiste de gauche arrive au pouvoir et décide d'appliquer son programme, et donc pour cela de désobéir aux traités européens et de prendre des mesures de protection face aux rétorsions qui ne manqueront pas de lui tomber dessus. Et de ce point de vue-là, il faut tirer la leçon de l'expérience grecque et de ce qui est arrivé au gouvernement Syriza, puisque celui-ci s'est fait étrangler. Et il n'a pas réagi à cet étranglement par les institutions européennes, la Banque centrale européenne, l'Eurogroupe, le Fonds monétaire international.
Et on voit ce qui se passe en ce moment avec le Royaume-Uni. C'est compliqué de sortir.
C'est clair que la sortie de l'Union européenne et de l'euro, mais en plus le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro, donc ce qui compliquerait évidemment les choses, est très difficile pour une raison assez simple à comprendre, c'est qu'on n'est plus du tout dans la situation des années 60 ou même 70, dans laquelle le capitalisme fonctionnait de façon organisée nationalement, régulée nationalement, était très peu internationalisé, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. Bon. Aujourd'hui, les économies européennes s'entremêlent, les clients des uns sont les fournisseurs des autres. Et donc, il est extrêmement difficile de sortir d'une union dans laquelle on est depuis des décennies. Et le Royaume-Uni est l'illustration de cette difficulté. Dans le cas de la France ou des pays de la zone euro, se rajoute évidemment la question de la sortie de l'euro qui a ses difficultés propres. Parce que la sortie de l'euro aurait des bénéfices économiques aléatoires, très difficilement mesurable, avec beaucoup d'inconvénients, et serait en plus politiquement très nocif parce qu'elle donnerait le signal d'un délabrement de l'Union européenne, du fait qu'un pays veut s'en sortir contre les autres, etc. Et donc ça sera un signal politique qui serait mauvais. Et d'autre part, notre problème n'est pas tant de sortir de l'euro que de sortir du néolibéralisme, de rompre avec les politiques qui ont été menées depuis des décennies. Et pour cela, le préalable n'est pas la sortie de l'euro. Alors, La sortie de l'euro peut être le résultat d'un affrontement avec les institutions européennes. Si le pays qui essaye de rompre se fait exclure de la zone euro, il faudra bien l'accepter. Rester dans l'euro n'est pas un objectif en soi, mais en tout cas ce n'est pas un préalable, parce que toute une série de mesures peuvent être prises sans sortir de l'euro.
Il n'y a pas un quatrième et peut-être premier levier, c'est de restaurer la confiance des électeurs vis-à-vis de leurs représentants.
Eh bien, pour restaurer la confiance des électeurs vis-à-vis des partis politiques et des élus, il faut que ceux-ci s'engagent à appliquer la politique pour laquelle ils ont été élus. Et c'est en général pas le cas. Et c'est pour ça qu'un gouvernement progressiste qui arrive au pouvoir sur la base d'un programme doit appliquer ce programme, même si ce programme est contraire au traité européen. C'était M. Juncker qui disait qu'il ne peut pas avoir de démocratie contre les traités européens. Eh bien, si, il peut avoir de la démocratie contre les traités européens.
Ça veut dire quoi, désobéir ?
Désobéir, ça veut dire appliquer son programme contre le contenu de beaucoup de dispositions des traités européens. On désobéit à l'essentiel de ce qu'il y a dans les traités européens. D'ailleurs, c'est tout à fait possible dans le cadre même des traités, puisque, par exemple, la Grande-Bretagne n'est pas dans l'euro, alors que les traités prévoient que tous les pays, la Grande-Bretagne ou d'autres, la Suède, par exemple, n'est pas dans l'euro, alors que les traités prévoient que tous les pays de l'Union européenne ont vocation à entrer dans l'euro. Bon. La Grande-Bretagne, la République tchèque, je crois la Pologne aussi, ont décidé de ne pas appliquer en négociant ce qu'on appelle une procédure d'opt-out un certain nombre de dispositions, petites dispositions sociales qui existent aujourd'hui, des directives qui ont été prises dans le cadre de l'Union européenne. Par exemple, la limitation de la durée d'un travail hebdomadaire à 48 heures par semaine ou l'obligation d'un repos journalier de 11 heures par jour. Bon, ben, par exemple, la Grande-Bretagne, la République tchèque ont décidé de ne pas appliquer ces dispositifs. Ces pays ont décidé de ne pas appliquer la charte des droits fondamentaux qui a été intégrée au traité de Lisbonne en 2007. Bon. Donc il est tout à fait possible de négocier des dérogations au traité, et si les autres pays refusent ces dérogations, d'engager un bras de fer, un affrontement avec les institutions européennes pour voir ce qui se passerait, voilà, et de commencer à essayer de rebattre les cartes à l'échelle européenne. Quelle sera l'issue de ce bras de fer? Personne ne peut le dire à l'avance. Tout dépendra des rapports de force qui peuvent être créés à l'échelle européenne.
Là, vous posez l'idée qu'il y a une opposition entre les institutions européennes et les pays.
C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, in fine, dans l'Union européenne, ce sont les États qui décident. Voilà. Ce sont les États et les gouvernements qui rédigent les traités, les États qui ratifient les traités, et aucune directive européenne ne peut être, disons, même pas appliquée, ne peut être adoptée sans que les gouvernements soient d'accord. Il ne faut pas croire que c'est la Commission qui décide, ce n'est pas vrai. La Commission fait des propositions, mais in fine, ce sont les gouvernements qui décident et qui peuvent être bloqués sur un certain nombre de dossiers par le Parlement européen. Voilà le fonctionnement, hein, grosso modo, de l'Union européenne. Dans ce cadre-là, bon, il peut y avoir un ou plusieurs pays qui décident de dire « Maintenant, nous ne sommes plus d'accord avec les traités européens ou avec telle ou telle directive ». Ça, c'est tout à fait possible. Et donc ça engage un bras de fer avec les institutions européennes et avec les autres gouvernements de l'Union européenne. Et dans ce bras de fer, c'est une question de rapport de force. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'on sera soutenu par les peuples européens? Est-ce que le pays qui commencera à rompre pourra être soutenu par d'autres pays ou pas? Parce que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes de l'Union européenne. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Donc l'idée, c'est d'engager une rupture avec l'espoir que ça peut rebattre les cartes au niveau européen dans la perspective d'une refondation de l'Union européenne.
Au niveau du respect du déficit, la France a toujours désobéi.
Beaucoup de pays ont désobéi. Hein. Même l'Allemagne, à un moment donné, a un déficit supérieur à 3%. Bon. Mais cette affaire du respect du déficit budgétaire n'a aucun sens économique. Donc, que ça soit à 3, 5, 4, ça n'a aucune importance économique. Donc, il n'y a pas de raison de s'en faire de ce point de vue-là.
Quand on veut désobéir, on peut, même avec un gouvernement comme actuellement.
Absolument. C'est d'ailleurs ce que va faire le gouvernement français là. Mais je vous dis, le gouvernement allemand n'a pas respecté la règle des 3% pendant un certain nombre d'années. Hein. notamment au moment de la réunification allemande.
On ne peut pas réaliser aujourd'hui une interview sans faire référence aux Gilets jaunes.
Bah, d'abord, on peut dire merci aux Gilets jaunes, parce que grâce à eux, la France ne va pas être en stagnation économique ou en récession comme l'est l'Allemagne, comme l'est l'Italie, comme sont en train de l'être progressivement la plupart des pays européens, puisqu'ils ont obtenu que soit injecté à peu près 10 milliards d'euros dans la machine économique. Et donc, grosso modo, dans la consommation des ménages, ce qui a permis que la France, aujourd'hui, ne soit pas en stagnation économique et soit le pays dont l'activité économique est une des meilleures d'Europe. Elle est faible, mais c'est quand même une des meilleures d'Europe. Bon. Par exemple, le fait qu'il y a eu la prime d'activité qui a été augmentée pour beaucoup de gens de 100 euros. Ben, la prime d'activité, c'est les ménages les plus pauvres. Encore, ce n'est pas tous les ménages les plus pauvres qui ont été touchés. Ce n'est qu'une partie des ménages les plus pauvres. Ben, les 100 euros, ils ont été consommés. Donc, ça a permis de relancer l'activité. Donc, ça a permis donc, que la croissance économique et l'activité économique soient plus importantes.
Pour un syndicaliste, ça fait pas quelque part mal?
Je pense que ça montre qu'il y a un problème avec le syndicalisme en France, c'est tout. Le syndicalisme a besoin de lui aussi de se ressourcer, de se rénover. Et par ailleurs, ce qu'il a un peu commencé à faire, mais il y a effectivement un problème, oui.
Pour quelqu'un qui a beaucoup milité.
Moi, j'ai plaidé autant que j'ai pu auprès des gens que je connaissais, de mes petits camarades, pour que le mouvement syndical s'engage dès le début pleinement aux côtés des Gilets jaunes et n'attende pas l'arme au pied comme elle a eu plutôt tendance à le faire au début. Bon, parce que le syndicalisme est aujourd'hui minoritaire parmi les salariés. Le taux de syndicalisation est faible. Le taux de participation aux élections professionnelles qui est en fait la mesure de la légitimité des syndicats. En France, qui mesure la légitimité des syndicats, c'est le taux de participation aux élections professionnelles, qui avait été jusqu'à ces dernières années très élevé. C'est ça qui donnait la légitimité aux syndicats, est en train de baisser année après année aujourd'hui. Bon. Donc il y a un problème, non seulement par le taux de syndicalisation qui est très faible, mais aussi un problème de légitimité des syndicats par la baisse régulière du taux de participation aux élections professionnelles. Donc comment retrouver de la légitimité? C'est de participer aux mobilisations, même quand ces mobilisations ne sont pas impulsées au départ par les syndicats. Bon. Et je pense que si le mouvement syndical avait été massivement présent dès le début du mouvement des Gilets jaunes, au lieu de regarder ça d'un peu en surplomb, eh bien, les choses se seraient passées de façon peut-être un peu différente que cela s'est passé. Bon, aujourd'hui, le mouvement syndical a commencé un peu à essayer de rattraper les choses, mais il l'a fait trop tard et il en paye le prix.
Juste pour conclure, il faut prolonger cette interview par de saines lectures, et notamment cette Europe malade.
Oui, c'est un ouvrage qui a été fait par la Fondation Copernic et Attac, dont j'ai été un des co-auteurs et un des coordinateurs.
Donc, ce sont les membres
de la Fondation Copernic et de l'association Attac.
C'est mélangé.
C'est mélangé, oui.
Les chapitres ne sont pas nominativement désignés.
Non, justement, c'est un livre qui se veut collectif. Bon. Et donc, qui a été rédigé collectivement avec des contributions diverses et variées, et que les coordinateurs dont je suis ont relu, re-rédigé, réécrit, etc.
Juste pour le présenter.
C'est un livre qui, en fait, commence par expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là, alors qu'il a fait un retour historique sur l'histoire de la construction européenne pour voir comment on passe, on arrive à la situation actuelle d'un fédéralisme autoritaire et néolibéral, bon, qui ensuite analyse la crise de la construction européenne telle qu'elle s'est notamment manifestée en 2010, avec la crise de la zone euro, bon, et qui termine par la stratégie pour essayer de sortir de la situation actuelle. Donc c'est un livre que je vous recommande absolument, qu'il faut recommander à vos auditeurs.
Et qui a été imprimé dans des pays du Sud, parce que c'est à 10 euros, donc c'est pas cher.
C'est un livre qui a été imprimé en France, et dont nous avons négocié pied à pied le prix avec l'éditeur à 10 euros.
C'est pas l'imprimerie là qui est en train de déposer de bilan en ce moment, non?
Ça, je peux pas vous dire où en France il a été imprimé, mais il a été imprimé en France.
Pour sa libre participation à ce programme, merci à Pierre Calfa, coordonnateur de cette Europe malade du néolibéralisme, l'urgence de désobéir, ouvrage paru aux éditions des Liens qui Libèrent.
Il y a aujourd'hui un fort courant d'extrême droite dans le pays, qui est un courant qui s'appuie sur une colère, bon, mais dont la colère est polarisée par des relents xénophobes, racistes, et qui est à la recherche de boucs émissaires. Et qui, au lieu de s'attaquer aux véritables causes du malheur, s'attaque à des gens qui ne sont pour rien, comme les immigrés ou autres. Bon. Pour combattre ça, il faut redonner de l'espoir. Voilà. C'est-à-dire que pour que cette colère ne se transforme pas en désespoir, en ressentiment, il faut que la gauche soit porteur d'une espérance nouvelle et d'un espoir nouveau. Il ne suffit pas de surfer sur la colère pour que les gens votent pour vous. Il faut être porteur d'un imaginaire social, d'une autre société différente, oui, d'un espoir, d'une espérance. Bon. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut-être fait défaut.